8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, tous en cuisine, mais pas vraiment pour préparer à manger, mais plutôt pour boire, pour préparer vos boissons préférées. Jus de bissap, de bouille, d'itar, c'est le jus de tamarin, tisane, thé, mais aussi vin de palme, bière artisanale locale, à consommer bien sûr avec modération. Le continent africain regorge de boissons rituelles, rafraîchissantes, calmantes, euphorisantes, conviviales. Elles accompagnent la vie de tous les jours ou les grandes occasions. Alors comment maintenir cette diversité face aux fameuses boissons gazeuses des multinationales? Comment mieux les valoriser aussi sur le continent africain? On va en discuter avec Anto Cocagne qui nous rejoint. Bonjour Anto.
Bonjour Emmanuel.
Anto, vous avez la couleur d'un jus de carotte aujourd'hui.
Oui.
Avec votre doudoune orange vif magnifique.
Pour apporter un peu de soleil, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup.
Il fait froid aujourd'hui. Il fait très froid dans la région parisienne. Le chef Anto, vous êtes chef à domicile, tout le monde vous connaît. Vous avez publié Good Afrique et vous avez ouvert tout récemment Baraka by le Chef Anto à Paris, dans le 15e arrondissement, table épicerie fine pour faire découvrir le meilleur des saveurs africaines. Et d'ailleurs, vous avez des petits yeux hein, depuis que vous avez ouvert ce lieu qui vous ressemble, mais c'est épuisant.
C'est épuisant et puis c'est...
Quand on démarre,
on est souvent seul et puis, bon, il y a l'administration française, hein, il faut se le dire, mais bon, on s'accroche.
En tout cas, vous avez apporté une petite recette avec vous de limonade.
Limonade gingembre citronnelle.
Également avec nous, Eric Ruclin.
Enchanté.
Vous êtes fondateur de Himara Tea, qui est une marque de thé africain. Himara qui signifie en Swahili...
Ensemble.
Ah, je pensais que c'était solide, durable.
Non, ensemble.
Ah, d'accord. Bon, alors j'ai mal lu le site internet. En tout cas, le thé n'est pas seulement présent à l'est du continent, on en reparlera, hein, il est aussi présent dans le Sahel. Nous sommes aussi en ligne avec Moriba Wendeno. Bonjour Moriba.
Bonjour.
Puisqu'on parlait de Sahel, vous avez vécu une grande partie de votre vie au Mali. Vous êtes fondateur de Moriba Saveurs d'Afrique, marque spécialisée dans la fabrication, la distribution de produits africains. Et vous êtes basé à Strasbourg. Et c'est comme si vous étiez à côté de nous, hein, Moriba Wendeno.
C'est ce que je vois. Bonjour Anto, bonjour Rick.
Bonjour.
Et quant à vous, les voisins qui nous écoutez, évidemment, on attend vos contributions. Partagez vos recettes pour un verre de l'amitié. Le compte WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41. Et en fin d'émission, une nouvelle rubrique chaque semaine, Mondoblog chez les voisins, le regard de jeunes blogueurs francophones et jeunes blogueuses sur leur société, avec les recommandations des meilleurs billets lus par l'équipe de Mondoblog.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Oui, bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Oui, allô?
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout de suite, écoutez le message de ce voisin posté de Lomé.
Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Alban, j'appelle de Lomé depuis Togo. J'aime la bière locale, la bière de mille. Et maman en vend, elle prépare, elle en vend. Moi, je vends. Quand il vend pendant les vacances, quand je me range chez ma maman, je vends. Et c'est la bière locale, elle-même que je bois. Il n'y a même pas l'eau qui rentre dans mon ventre. J'aime ça tellement que ça me fait du bien. Et quand tu bois ça, tu ne fais que hurler seulement. Sans endommage pour la santé. Non, rien du tout. Et c'est une très bonne bière, la bière locale.
Voilà, est-ce que c'est la bière de maman, surtout préparée par maman à la maison. Eric Ruclin, vous êtes d'origine togolaise.
Exactement, je suis né à Lomé.
Ouais, et vous avez grandi une bonne partie.
Oui, et je le comprends tout à fait, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Afrique de l'Ouest, le Togo a une spécialité, c'est qu'on est des très bons brasseurs.
Mmh. Enfin, vous êtes spécialiste de tout dès que ça concerne la cuisine et les boissons. Hein,
bien entendu. Le meilleur bissap vient du Togo. Non, je rigole.
Ah, ouais, c'est pas mal, ça a des problèmes.
Mais alors, on va voir si vous vous souvenez bien de la géographie togolaise. Les meilleures boissons locales appréciées, parce qu'il y a quand même différentes régions, avec des climats différents. Il y a les savanes au nord, la Kara, les plateaux, la région maritime. Donc, une agriculture différente aussi. Est-ce que ça veut dire que les boissons aussi changent d'une région à l'autre?
Forcément.
Ou la bière locale, c'est partout, préparée par maman.
Bah forcément, l'agriculture, en fonction de l'exposition, de l'altitude, etc., forcément, vous n'allez pas forcément avoir le même goût. Même, je prends par exemple le Burkina avec le Nkikaliba, si vous allez d'une extrémité à une autre du pays, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes saveurs. Et c'est ça ce qui est marrant, parce que finalement, ce qu'on a avec la bière ou d'autres boissons, c'est qu'on a toujours notre Madeleine de Proust, notre souvenir.
C'est ce que j'allais dire. Et vous, votre boisson d'enfance, c'était peut-être pas de la bière quand même.
Non, pas encore à cet âge-là, mais c'est le pain de singe.
Ah oui, le fameux jus de bouille au Sénégal ou jus de baobab, extrait de la poudre de baobab ou directement du fruit. Et pour vous, on en reparlera bien sûr parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui veulent évidemment mettre l'accent sur ce fameux jus de bouille. Et pour vous, Anto, une boisson de votre enfance au Gabon ?
Ben moi, c'est la citronnelle. J'ai grandi avec la citronnelle.
À cause des moustiques ?
Je pense aussi parce qu'il y en avait tout autour de la clôture. Et on en buvait énormément, que ce soit en version chaude ou même froide. Et moi, j'ai grandi vraiment avec la citronnelle. Mm.
Et pour vous, Moriba Wendeno, une boisson de votre enfance ?
C'est beaucoup plus le Kinkeliba, parce que je ne pouvais pas aller à l'école sans boire le verre de Kinkeliba. Ça m'a traumatisé.
Parce que ça a un goût quand même assez amer.
C'est amer, mais plutôt pour lutter contre le palud, on me disait.
Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a globalement des boissons qu'on retrouve beaucoup d'un pays à l'autre ? Je pense à un basique comme le jus de gingembre, Anto.
Oui, alors c'est vrai que le gingembre, ça a besoin quand même ça pousse beaucoup dans les endroits où il y a aussi beaucoup d'eau. Et c'est vrai que le gingembre, on le retrouve un peu partout, mais pas forcément bu en boisson. Ce que je me souviens, que j'ai commencé à boire vraiment du jus de gingembre et bissap à Libreville au Gabon, mais j'étais au lycée. Mm. C'est vraiment au lycée où c'était des femmes ouest-africaines qui en vendaient, et c'était elles qui étaient vraiment connues pour pouvoir vendre ça.
Il n'y avait pas de tradition de jus de bissap au départ.
Non, nous on mangeait plutôt les feuilles de bissap.
D'hibiscus.
D'hibiscus, donc les feuilles de l'oseille de Guinée.
Ah oui,
puisque c'est
dans
comme
la cuisine alors.
Dans la cuisine, accompagnée de poissons et tout ça. Mais on ne consommait pas les fleurs. Ce sont les ouest-africains au Gabon qui ont apporté cette culture de consommer le bissap et même le jus de gingembre. Et souvent, c'était chez elles qu'on allait justement s'approvisionner.
On peut faire teinter les petites bouteilles que vous avez apportées là, Eric Ruclin.
Bah justement, vous en voulez une ?
Oui, non, mais on peut les entendre surtout. Parce elles sont extrêmement jolies. Alors, il y a un thé violet, donc c'est bien de la boisson fraîche, ça.
Oui, c'est ça, c'est du prêt à boire. C'est du prêt à consommer.
Il suffit de décapsuler.
Et c'est parti.
Ça
c'est parti pour
à
le voyage
du bière, mais c'est pas du tout une bouteille de bière.
Non,
d'alcool.
C'est du sans alcool. Nous, on fait du sans alcool, uniquement du sans alcool.
Thé violet du Mont Kenya.
Exactement.
Vous restez avec nous, on va détailler les jus, les boissons fermentées aussi, il faudra en parler, les tisanes, les thés qui peuvent d'ailleurs se boire froid en effet. On vous donne la parole, les voisins et les voisines, sur vos boissons préférées, mais surtout, je dirais, celles qui sont ancrées dans votre culture, voire dans certaines célébrations. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, ça sera juste après cette sélection de la playlist RFI, un duo ivoirien nigérian, forcément, ça fonctionne. MC One, Oxlade, chez 8 milliards.
Avec toi que je me fais ma story. De toi je suis love, love. Et que toi et moi dans la cova, cova. Et mets tes valises, on va s'en aller. Pass me, I'm a brand new man. I want love.
reminiscing the memory. Girl, you know, let me be your mama, somebody. You know, I need no other body. I need your love.
Romantic chez 8 milliards de voisins. On est en direct sur RFI pour faire le tour du continent ou presque concernant vos boissons préférées, qu'elles soient chaudes, fraîches, surtout que ce soit des boissons, on va dire, destinées à des célébrations ou des boissons de la vie quotidienne. On en discute avec le chef Anto, Anto Cocagne, Eric Ruclin, Moriba Wendeno. Je vous lis le message d'Hippolyte qui est à Ziguinchor en Casamance, dans le sud du Sénégal. Ma recette pour les boissons sucrées, c'est le jus de baobab ou jus de bouille. Et très efficace contre les diarrhées et le stress. Ça, je ne savais pas. Les experts l'ont démontré, nous dit Hippolyte. On me demande la recette du Japon et de partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être décoder pour ceux qui sont à l'autre bout du continent et qui ne connaissent pas la fameuse poudre de baobab, Anto. En général, on achète la poudre toute prête, hein, souvent.
Oui, alors, pour nous qui sommes en Europe, on achète la poudre toute faite, mais quand vous êtes
Dakar
sur
aussi,
le continent...
Hein.
Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est les personnes souvent vont prendre les graines qui sont dans le fruit du baobab, trempés dans de l'eau pour que ces graines-là...
Dans de l'eau bouillante parfois, non ?
Oui, tiède. Et justement, la poudre qui entoure les noyaux va se détacher et après, on filtre pour pouvoir avoir ce jus de bouille qui, normalement, naturellement, est sans sucre. Mais très souvent...
Il y a un petit peu de sucre hein, quand même dans le baobab.
Mais c'est très léger.
Très riche en vitamine C, antioxydants, riche en potassium. C'est incroyable, hein, les vertus.
C'est incroyable, mais le problème, c'est que souvent, c'est trop sucré ce qu'on nous vend.
Ah oui?
Oui, les boissons, en tout cas les boissons sans alcool, souvent sur le continent, la façon dont c'est préparé, il y a souvent trop de sucre. Et c'est vraiment
Pourquoi?
Un problème. Alors, moi, je sais que notamment pour le bissap, j'ai souvent des gens qui me disent « Oui, mais c'est pour diminuer l'acidité. Le fait d'augmenter le sucre, ça fait que c'est moins acide. » Et c'est souvent ce qu'on préconise, hein, même en cuisine. Quand vous avez une sauce tomate qui est acide, on vous demande de rajouter un peu de sucre pour diminuer l'acidité.
Et c'est une erreur à votre sens?
Alors, je vais pas dire que c'est une erreur, mais il y a d'autres moyens. Moi, j'ai trouvé en tout cas d'autres moyens, notamment en utilisant des épices ou même, par exemple, des peaux d'ananas. Quand vous épluchez l'ananas, vous savez, vous prenez ces peaux d'ananas, vous faites votre bissap en les plongeant dedans. Ça casse, en fait, l'acidité.
Ah, la peau d'ananas.
La peau d'ananas, oui. Donc,
Après,
on la retire.
Elle
on va
donc
filtrer.
Infuser dans l'infusion de feuilles d'hibiscus.
Hein, de bissap, exactement. Donc, il y a d'autres moyens de contourner l'acidité. Mais après, le problème du sucre, c'est que ça devient un addictif. Et donc, comme c'est un addictif, ben, on en met partout.
Et donc, quand on goûte
de
vos
plus en plus.
Et quand on goûte vos petites bouteilles, Eric Ruclin, de boissons rafraîchissantes, c'est pas très sucré.
C'est légèrement sucré. Par exemple, si on prend en comparaison un iced tea, on va avoir à peu près 9 à 10%. De sucre,
non,
là on est à 3.
Oui.
Là, 3, 3, 4. Donc c'est vrai que ça fait quand même un écart.
Et après on vous dit que c'est vous qui avez faux.
Oui, souvent. parce que
les gens sont habitués à boire très sucré.
Mais par contre, ce qu'on peut aussi faire pour diminuer l'acidité, l'acidulé, notamment sur l'hibiscus, c'est aussi travailler avec du citron, qui va aussi atténuer ça.
Mais je trouve paradoxalement, quand même.
Oui, ouais, non, mais nous, par exemple, sur le thé violet, nous, on a mis du jus de citron pour atténuer notamment cette amertume qu'on retrouve sur un thé qui est infusé à froid.
Quand je vais au village, nous dit Ibrahima Douala, à l'ouest du Cameroun, on consomme le dolo, jus fermenté de canne à sucre non alcoolisé, que l'on appelle le dolo de papa, comme par hasard, pas celui de maman. Il y a des variantes alcoolisées, mais que je ne consomme pas. Et puis on est aussi en ligne avec Leslie, qui nous appelle de Yaoundé, au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Leslie.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous.
Oui, merci d'être en ligne avec nous. Vous souhaitez nous parler de bière locale, de Bissap, hein?
Oui, exactement. Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, voilà, c'est un pays d'Afrique équatoriale.
Ah bon, vous avez pour tout le monde, hein, chacun a son pays qui représente l'Afrique en miniature.
Non mais de toute façon, ce sont les Camerounais, on va pas se battre.
Ouais, on a un voisin togolais là, c'est l'Afrique en miniature aussi.
Le plus beau pays, le plus beau pays
d'Afrique. Allez-y Leslie, on vous écoute.
Ok, il y a donc plusieurs réalités climatiques au Cameroun et plusieurs essences. Oui. Du point de vue végétal,
oui.
Dont les arômes sont très très voilà, diversifiés ici, mais on se rapproche beaucoup gustativement et qualitativement de ce que le Gabon propose, parce que c'est un pays de microbes, oui. Un pays aussi qui partage la forêt équatoriale.
Alors vous souhaitez nous parler du Bilibili surtout?
Oui, surtout, c'est la zone nord du Cameroun, c'est... Voilà, on les appelle les arômes ici, musulmans, bon, chrétiens aussi, c'est... C'est du mil, du maïs, du sorgho fermenté.
Donc voilà, alcoolisé. Donc alcoolisé, on est bien d'accord.
Oui, 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 exactement. Ouais. Et consommé par les communautés. Les communautés de cette même région, peu importe où on les recoupe dans le pays. Mais c'est véritablement en fonction de la région qu'on observe les consommations des alcools spécifiques.
Ouais.
Et le bilibili au nord, le dontol au sud, le vin de palme au sud... Donc, c'est les particularités des boissons.
La boisson, effectivement, épouse la géographie. Le jus de Bissap, c'est-à-dire les...
C'est foléré.
Ouais, vous ne parlez pas de Bissap hein, au Cameroun.
C'est ça. Au Cameroun, c'est foléré. Le thème, c'est foléré. Thème accessible. Hein. Toutes les bourses, voilà, sucettes, à partir de 25, 50, 100 francs. C'est véritablement la boisson du peuple camerounais.
Ouais. Donc, dans des petits sachets plastiques, c'est ça?
C'est ça. Dès 25 francs. Donc, même le gamin, dès l'école primaire, peut avoir son propre argent de poche. Voilà, c'est satisfaisant.
Et votre maman, sa spécialité, c'est quoi, Leslie?
Ok, les arômes, ça varie aussi en fonction de la ménagère. Donc, elle, c'est comme elle apprécie d'abord les fruits, donc ces mixtures vont aller avec les fruits de saison. Donc, on a comme la dame, la cuisinière Anto, c'est pas très différent, c'est Bissap, mais elle a éliminé les feuilles, les peaux d'ananas, parce que c'est souvent riche en éléments toxiques ici, en engrais chimiques. Donc, mais elle, c'est plutôt le jus de fruits ananas pur.
Oui.
Même qu'elle, plus la citronnelle, citron, voilà, peau de... Autant pour moi, jus de mandarine, donc ça varie. Tout à fait en fonction des fruits de saison.
Voilà. Et effectivement, il faut faire attention si on laisse la peau, que le fruit ne soit pas, n'ait pas subi de traitement chimique. Et votre grand-mère, c'était surtout citronnelle, hein, je crois, Bissap citronnelle.
Oui,
on voit bien que ce fameux jus de Bissap, donc à base de fleur d'hibiscus qu'on appelle foléré au Cameroun, il est finalement préparé de manière très différente en fonction des pays, des régions, des goûts aussi, hein, tout simplement, Anto.
Oui, des goûts et puis de la végétation qu'on a autour. On s'adapte et je pense que même la façon de le préparer dans chaque maison a sa recette.
Vous êtes d'accord avec ça, Leslie?
Oui, il y a même la menthe régulièrement. Moi, chez là, il y a une autre astuce. On crampe la menthe, on la bouffe. Voilà, et on recueille, n'est-ce pas? Bon, une infusion, autant pour moi.
Vous parlez de la menthe ou de la mangue?
Oui. La menthe.
D'accord, le fruit.
Oui, non, la menthe.
Les feuilles de menthe.
Mmh. Oui. Les feuilles de menthe, c'est aussi voilà, une nouvelle façon.
Qu'on associe avec les feuilles d'hibiscus, en effet, mais là, ça recouvre beaucoup le goût de l'hibiscus. Hein, mais
non,
ça peut.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Ah, c'est fort la menthe.
Ah, mais goûtez notre hibiscus, il y a de la menthe dedans. Et c'est assez subtil, c'est assez léger. Ça
c'est
complète.
Le choix que vous avez fait pour l'hibiscus. Hein.
Exactement. Mais après, je sais qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord sur la recette d'hibiscus parce qu'il y a autant de recettes d'hibiscus qu'il y a d'Africains sur le continent.
Sait, l'émission n'est pas terminée. Peut-être qu'on mettra tout le monde d'accord sur la recette de l'hibiscus. Merci à vous en tout cas, Leslie. Aurélien nous appelle également de Yaoundé. Après, c'est stop le Cameroun. On n'a que des messages du Cameroun aujourd'hui. Aurélien, bonjour. Soyez le bienvenu chez Humilia.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute Aurélien.
Alors ce matin, je suis avec beaucoup d'attention le sujet et chez nous, nous avons les boissons alcoolisées, hein, les boissons traditionnelles de chez nous, le vin de palme.
Oui.
Il est cueilli sur l'arbre qui produit l'huile de palme.
Oui.
On l'appelle communément le matango.
Oui.
Et c'est une boisson incontournable chez nous. Quand il y a des événements, que ce soit un mariage, un anniversaire, n'importe quoi, vous allez toujours trouver du matango à table.
Ouais. Pas que les grands événements, hein, si j'ai bien compris.
Tous les événements de la vie courante.
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, les coins de rue et tout. Il y a souvent des rassemblements.
Il y a beaucoup d'événements, finalement. Oui, hein. Il y a beaucoup d'occasions. Allez, on n'est pas chez Priorité Santé, si on peut le dire. En fait, ce vin de palme, il faut bien repréciser, il est obtenu à partir de la sève.
C'est la sève de
palmier. On dit qu'on fait saigner le palmier, d'ailleurs, parfois.
Exactement. C'est la sève de palmier. Vous avez deux types. Parce que je sais que nous, quand on était enfin, moi, j'ai été traumatisée par le vin de palme parce que mon père en buvait beaucoup avec ses amis et tout ça. Vous avez celui qu'on donne aux femmes qui est un peu plus sucré et puis un autre qui est beaucoup plus amer que les hommes apprécient. Et c'est vrai qu'on...
Plus alcoolisé dans ces
cas-là. Plus alcoolisé et qu'on retrouve dans tout... Enfin, il y a toujours... Vous allez toujours voir un regroupement d'hommes là dans un coin en train de boire ça. Et souvent, c'est même pas dans des verres, ce sont des bouteilles en plastique qui sont coupées en deux et ils sont là. Enfin, c'est
vous
vraiment...
Vous n'avez pas aimé ça. Hein?
Non, du tout.
Sentiment d'exclusion pour vous, petite fille.
Oui, c'est ça.
Aurélien, alors vous êtes très vin de palme ?
Alors, nous sommes Camerounais et nous mélangeons vin de palme. Nous buvons également de la bière à l'occasion, la bière manufacturée, quoi.
Oui, voilà, les multinationales. Mais vous avez dit au Standard, à Delphine, que le vin de palme devenait un produit de luxe. Pourquoi ?
Alors, le vin de palme chez nous devient un produit de luxe pour la simple raison qu'on abat massivement les palmiers à huile. Et du coup... les palmiers se faisant rares, le vin se fait rare de plus en plus, ce qui fait que ce sont ceux qui... ça devient un produit de luxe, on n'en trouve pas beaucoup. Donc quand vous avez votre vêtement, quand vous offrez une bouteille de vin de palme à quelqu'un, la personne estime
qu'elle
a plus de considération.
C'est pas plus mal, hein, en même temps, que ça ne soit pas un bien de consommation ultra, ultra courante. Parce que c'est quoi comme niveau d'alcool en termes de pourcentage? Ça doit énormément varier, j'imagine.
Ça varie effectivement. Parce que, vous savez, quand on vient de cueillir le jus... Le niveau est très bon, le goût est sucré, l'alcool est très bas, mais au bout de 4 jours,
c'est
le
pas encore
sucre
fermenté.
Est fermenté. Il n'est pas encore fermenté. Au bout de 4 jours, l'alcool est fermenté. Il devient très dur à boire et il devient pratiquement du vinaigre. Hein.
Oui, bon, donc là, il faut se calmer. Merci à vous. Merci Aurélien de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Un message de Carmine qui est à Cotonou. Elle nous dit il y a le sodabi.
Oui.
Donc, boisson faite à base de vin de palme que l'on transforme sur le feu. C'est-à-dire que c'est une autre version?
Oui, c'est un peu comme de l'eau de vie. C'est comme le sodabi, c'est comment on dirait ça en France, c'est un peu comme on ferait
avec l'alambic.
Exactement. Et donc ça devient, en tout cas, c'est transparent, c'est ça devient comme une eau de vie, mais
donc
faite
là,
à base
vraiment
de vin.
Une boisson de célébration en Afrique de l'Ouest.
Oui, hein. Et c'est pas donné, hein, parce que mon dernier voyage au Bénin, j'ai voulu en acheter, c'est pas donné quand même. Et il y a pas beaucoup qui arrivent en plus à bien le faire. Donc oui, on en a aussi des eaux de vie comme ça.
Un message de Mariama qui est à Tawa au Niger. On salue nos amis et nos voisins du Niger qui évidemment ont des difficultés maintenant pour nous écouter. Elle nous parle du jus de tamarin qu'elle fait régulièrement. Donc elle fait bouillir le tamarin, donc c'est ce qu'on appelle le ditar, hein, au Sénégal. Le gingembre, le clou de girofle, la peau d'ananas. Effectivement, elle utilise la peau d'ananas, elle. La menthe, et une fois refroidie, on filtre le liquide et on ajoute du sucre.
C'est ça. Par contre, le tamarin et le dittar, c'est deux fruits différents.
Ah,
le
pardon,
dittar,
alors,
c'est un fruit vert qui est rond,
ouais.
Qui a la chair est verte, qui donne un jus vert, qui est très acidulé. Et le tamarin, c'est plutôt comme une gousse, ça ressemble un peu comme une gousse de cacahuète.
Alors, dans mon esprit, c'était la même chose.
La pulpe est plutôt marron, très caramel et avec des graines dedans.
Alors, le dittar, d'ailleurs, est moins fréquent. Hein. Moi, j'en ai bu, mais assez, pas très souvent. Hein. Ça a cette couleur verte qui pourrait ressembler un peu à de la rhubarbe en Europe. Vous le commercialisez aussi le dittar,
Non, on ne le commercialise pas. On a commencé, nous, vraiment à sourcer les meilleurs thés d'Afrique. Donc, on a commencé avec l'Afrique de l'Est. Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire des boissons froides, mais toujours à base de thé.
Mmh. Après, on va bien sûr en parler.
Mais bien entendu, on ne s'exclut pas de commercialiser d'autres
peut-être
produits.
Peut-être que Moriba, il en fait, je ne sais pas.
On va bien sûr en discuter, en tout cas, aussi des boissons chaudes ou des boissons issues d'infusions qui peuvent se boire fraîches. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Un message de Ndak qui est à Dakar. La boisson que j'adore, c'est un mélange de feuilles de Never Die, ne meurt jamais, Moringa.
Moringa, oui.
Parce que le Moringa, c'est un arbre qui est très résistant.
Très résistant. On l'appelle aussi l'arbre de vie parce qu'on l'utilise pour soigner aussi pas mal de maladies. Les tradis praticiens, en tout cas, l'utilisent beaucoup dans les médicaments qu'ils font.
Ouais. Et évidemment, elle aime aussi beaucoup le jus de coco qui se vend au bord des routes. Bon, là, délicieux, mais il n'y a pas besoin de recette, hein, puisque la nature est bien faite. Le jus est tout prêt dans la coque. Le moringa se prépare en tisane, toujours à partir d'eau bouillie ou pas forcément?
Alors, ça dépend. Moi, je l'utilise plutôt, je vais utiliser les feuilles qui ont été déshydratées complètement et réduites en poudre. Et après, le mélanger avec, par exemple, du lait ou une autre boisson. Mais c'est vrai que traditionnellement, on le fait infuser avec de l'eau chaude. Alors, pas de l'eau bouillante, parce que l'eau bouillante va tuer justement toutes les qualités que l'on veut préserver, surtout quand on l'utilise de façon médicinale. Mais il faut qu'elle soit, on va dire, c'est de l'eau frémissante qu'on utilise.
Antoine a totalement raison. Justement, en ce moment, je suis en train de tester plusieurs moringas dans ma cuisine. Et les feuilles, je les fais, l'eau, je la fais chauffer à peu près à 80-85 degrés.
Ouais, un peu plus chaud que pour le thé.
Ça dépend du thé. Par exemple, un thé vert, vous allez l'infuser à 70 degrés. En 3-4 minutes, un thé blanc, ça va aussi être 70 degrés.
Mais il faut vraiment avoir le thermomètre.
Ah, mais oui, il faut toujours avoir le...
Toutes les ménagères n'ont pas le thermomètre dans la cuisine, là, excusez-moi, mais... Non.
Ah, mais sinon, il y a le portable et on met notre timer sur le portable et ça marche très bien, je le fais tout le temps.
Comment ça, le timer sur le portable?
Le compte à rebours, on met 6 minutes et après ça décompte.
Parce que vous savez qu'à 6 minutes, on est forcément à 70 degrés, mais ça dépend
de la
puissance
du feu. Non, j'ai une bouilloire à degrés.
Ah oui, d'accord.
Après, si on a un feu, si justement on n'a pas de bouilloire à degrés, on fait jusqu'au truc, jusqu'à 100 et après on laisse reposer 15 minutes et après on est à 80 degrés.
Moriba Wendeno, quand on pense au thé, on ne fait pas immédiatement le lien avec le continent, non? Alors c'est vrai que vous êtes issu d'un pays sahélien. Au Mali, il y a des traditions de thé, un thé noir, amer, le thé du désert, hein, comme on dit souvent.
Oui, le Mali, je crois que c'est l'un des pays les plus grands consommateurs de thé en Afrique. Mais malheureusement, ces thés-là sont importés de Chine. Je suis désolé souvent qu'on n'arrive pas à fabriquer ou à cultiver nos propres thés. Mais bon, ça viendra. Je crois que la nouvelle génération est en train de prendre le relais à ce niveau-là. Mais quand on parlait tout à l'heure de boissons à base de gingembre, de bissap, je pense qu'il faudrait que nous, ensemble, qu'on trouve un nom générique qui n'est pas le bissap, parce que le bissap, c'est sénégalais. Et au Cameroun, il y a d'autres noms, il y a d'autres pays où on nomme autrement.
Pourquoi vous voulez gommer la diversité?
Je gomme pas la diversité, je veux qu'on harmonise.
Ah, le nom générique, c'est hibiscus.
Ouais, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Et très souvent, on commet beaucoup d'erreurs en Afrique en appelant jus de bissap. Ça n'existe pas, le jus de bissap. C'est une boisson ou un nectar de jus d'hibiscus.
Oui, le bissap est un jus d'hibiscus. Vous avez tout à fait une infusion.
Non, mais en fait, en français, le mot jus, parce que c'est très réglementé, jus, on obtient un jus par lorsque vous pressez quelque chose. Mmh. Par exemple, une orange, on a un jus d'orange. Mais si vous pressez des feuilles, des calices d'hibiscus, vous n'avez pas un jus.
Ouais. Eric Ruclin, Moriba nous disait qu'au Mali, on était des grands consommateurs de thé, notamment la communauté Touareg, mais pas que. Est-ce qu'il y a une culture du thé qui est plus marquée dans certains pays? Parce que vous importez des thés essentiellement d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon, puisque c'est là qu'ils poussent, hein. Kenya, Ouganda.
On n'apporte pas, on va directement les chercher sur place.
Vous allez les chercher, vous allez les sélectionner.
Exactement, exactement. Mais oui, il y a une culture du thé en Afrique de l'Est. Il faut savoir que le Kenya est le troisième exportateur au monde de thé noir, mais de mauvaise qualité. Généralement, quand vous buvez un Lipton jaune, vous allez trouver souvent du thé africain. Mais là, on assiste...
C'est votre bouillon cube à vous, au fait. Hein,
si vous voulez.
Mais c'est bien, on va casser, là.
Mais à côté, je trouve qu'on est en train d'assister à une révolution de l'industrie du thé en Afrique. Parce qu'on est sur une montée en gamme. On fait du thé de spécialité. Et après, tous les pays ne peuvent pas produire du thé.
Il n'était pas du tout connu, il y a encore très peu de temps.
Oui, c'est comme le café de spécialité.
Le thé haut de gamme africain n'était pas connu et ne l'est toujours pas.
Ça va venir. Bah justement, avec des chefs comme Anto, avec des marques comme les nôtres, ça va commencer aussi à se diffuser.
Quelles sont les plus belles découvertes qu'il faudrait faire là, concernant des thés d'Afrique de l'Est?
Des thés d'Afrique de l'Est, moi je vous dis, déguster le thé violet. C'est quelque chose qui est encore sous les radars. C'est un thé qu'on a importé exactement. Et c'est un thé soit de petit déjeuner, soit de fin d'après-midi, et qui est à une richesse infinie, qui est fruitée, qui a une légèreté infinie.
Moriba Wendono, vous êtes un défricheur parce que vous avez créé votre marque en 1996, à une époque où, là, bon, on dit que le thé d'Afrique de l'Est est encore très méconnu, mais à une époque où les produits du continent étaient vraiment très mal connus.
Oui, j'ai été le défricheur, mais c'était juste pour ouvrir cette porte à cette nouvelle génération qui est en train d'aller très très vite, et je suis sûr que demain, ce serait l'Afrique.
Et je te remercie d'avoir justement d'avoir fait le job, comme on dit, d'avoir été le précurseur, de nous ouvrir la voie.
Merci beaucoup. Mais c'était un devoir à quelqu'un comme moi, d'autres personnes d'ailleurs, pour ouvrir cette porte, parce qu'on a tellement à faire découvrir le continent aux autres peuples. Il y a tellement à découvrir.
Et au continent lui-même.
On n'a même pas commencé encore.
Ouais. Et alors, je sais qu'en ce moment, Moriba, vous travaillez sur le souché. Moi, je connais, grâce à Anto, la farine de souché. Mais vous en faites une boisson?
On est en train de travailler. La boisson existe déjà depuis très longtemps dans mon pays, dans la région de Sikasso.
Oui.
Je l'ai retrouvée en Espagne. Ils en font même de la glace au souché. Et je les retrouve encore dans le steak végétal.
C'est ça. Il s'agit d'une céréale à la base.
Exact.
Ou pas?
Non.
C'est pas une céréale, c'est comme un petit tubercule.
Ouais. Donc, ça veut dire que c'est une boisson fermentée pour en faire une boisson ou pas forcément?
Non, c'est du lait.
C'est une boisson laiteuse.
C'est une couleur laiteuse.
Un peu comme le jus de baobab.
Très sucré. Très sucré d'ailleurs.
Naturellement sucré.
Très riche en vitamines. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on peut remplacer la viande par le souché. Hein.
Mais farine de souché. Vous pourriez faire fabriquer les produits que vous commercialisez à l'heure actuelle dans votre entreprise à Strasbourg, vous pourriez les fabriquer entièrement sur le continent pour des clients africains ou pas?
C'est la dernière étape de notre programme. Le projet, c'était de faire connaître une marque internationale, ouvrir des portes à la nouvelle génération et maintenant le retour en source pour transmettre le savoir-faire qu'on a appris ailleurs. C'est la dernière étape du projet.
Mais en même temps, c'est pas évident parce que là, de toutes ces boissons dont on parle, on voit bien les auditeurs, les voisines et les voisins nous appellent pour nous parler de recettes familiales, de recettes qui sont préparées artisanalement à la maison, Eric.
Exactement. Et Par exemple, pour prendre l'infusion d'hibiscus, d'ailleurs sur nos bouteilles, on a marqué infusion d'hibiscus pour mettre tout le monde d'accord, ben, on va devoir prendre des partis pris. Et dès qu'on prend un parti pris, ben, forcément, ben, y en a qui vont pas être d'accord. Et c'est pour ça que ce qui est plus dur, c'est partir d'une recette familiale, ancestrale, familiale, pour pouvoir arriver sur une recette standardisée. Il y a toujours ce côté famille artisanale, mais aussi stabilisé, qu'on puisse vendre à plusieurs milliers de bouteilles ou millions de bouteilles.
Ah, ça, vous disiez d'ailleurs, vous avez du mal à obtenir toujours la même couleur, qui est une couleur naturel hein, pour ce fameux thé violet.
On a mis 6 mois pour y arriver.
Pardon de vous couper, mais je rebondis sur la réponse d'Eric là pour dire que le problème de l'agroalimentaire africain, c'est la standardisation. C'est dès lors qu'on sort de, on veut remettre la standardisation en route, il y a certainement des freins. C'est ce que Eric rencontre, c'est ce que j'ai rencontré depuis plusieurs années. Standardiser un produit africain devient hors norme pour les Africains. Vous voyez? Or, aujourd'hui, l'alimentation, est, on est obligé d'aller dans la standardisation.
Ouais. Oui. Le message est super clair. Merci en tout cas à vous parce que vous êtes vraiment à la pointe hein, et vous êtes ultra créatif. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais juste avant qu'on se quitte lire le message de Jean-Claude en RDC parce que ça, c'est aussi une alerte. Vous avez entendu parler, nous dit Jean-Claude, du Chichampa. Un whisky traditionnel du Kasaï. Il est fabriqué à base d'un mélange de maïs, de manioc, le tout fermenté. C'est canon, nous dit Jean-Claude. C'est surtout un danger public avec un taux d'alcool de près de 50%. Donc là, c'est évidemment, il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme. Il y a des boissons qui sont extrêmement dangereuses pour l'organisme et dévoyées. Merci en tout cas à vous tous pour tout ce que vous faites pour le continent africain, le faire connaître, le faire savoir. Anto Cocaïne, les voisins à Paris peuvent vous retrouver désormais dans le 15e arrondissement Baraka by le chef Anto.
Oui.
On vous laisse retrouver votre lieu emblématique, Table Épicerie Fine, pour découvrir le meilleur des saveurs africaines. Merci à vous, Eric Ruclin. On retrouve la marque Imarati, marque de thé africain absolument haut de gamme à découvrir, parce que là, il y a beaucoup de saveurs différentes.
Notamment Galerie Lafayette, si vous passez.
Et restez avec nous aussi. Et merci à Moriba Wendeno, bien sûr, fondateur de Moriba, saveur d'Afrique. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Moriba de Strasbourg.
Merci beaucoup.
Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que Mondoblog s'invite chez les voisins désormais avec une recette de l'île des Chagos. On parlera cuisine, et oui, que nous apporte Thibaut Matta. Il va nous rejoindre dans le studio. Ça sera juste après David Walters, extrait de son album Soul Tropical. I hold on to the light. Yeah, feels alright. The feeling wakes my soul. Feel not so alone. Step by step, I set my goals. Each day, another road. I hold on to the light. I hold on to the light. Oh, mon camaré, camaré cola. Ça cava moi en feeling easy and down. Ça cava moi en vibe easy. Tears, no more troubles, yeah, peace of mind. I wanna see clear, I wanna be clear this time. So don't you try to put me down. I stop the pain and let love shine. I hold on to the light. I hold on to the light. Oh, mon camaré, camaré cola. Ça cava moi en feeling easy on the down. Ça cava moi en vibe easy, easy, easy. Yeah.
C'est ça qui a fait me sentir comme un bien l'air. Ça manque à ma dit qu'elle avait l'esprit, moi. Non, c'est moi pas tout seul. J'ai solide, grif en terre pour faire ça, fais-moi. Chaque jour, c'est un lot de chemin. Mais ma cabane, j'ai aboli, mais tu peux pas molli, c'est molli à qui rêve. Ah. On peut pas imaginer un autre rêve. Un autre temps, un autre monde, un autre l'univers. Ma cachembe, pas ni plaire. La paix en dit dans j'ai même les weckles. Et mon life, et tout le monde froid ça là. Ni même pas essayer de chemin, moi en bas. Quitte l'amour, bouillé juste sans l'air. Ma cabane, j'ai aboli. I hold on to the light. I hold on to the light. Yeah, come on, feel like I got a deep feeling like. Hold on.
8 milliards de voisins sur RFI. Chaque semaine, désormais, nous retrouvons chez 8 milliards la communauté des blogueurs de RFI, Mondoblog, un espace d'expression qui est vraiment unique pour tous les jeunes blogueurs, les jeunes blogueuses qui nous livrent vraiment leur regard sur la société. Mondoblog chez les voisins, aujourd'hui, c'est avec Thibaut Matta. Bonjour Thibaut.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez sélectionné le billet de Carole Rico, une blogueuse qui aime bien publier chez vous.
Tout à fait, parce que cette semaine encore, on a reçu beaucoup d'articles, mais celui de Carole Rico aborde un sujet un peu traité sur notre site. Cette blogueuse, elle a rejoint la communauté Mondoblog en 2014, donc il y a déjà 10 ans, et elle nous écrit de l'île Maurice et nous raconte l'histoire de l'archipel des Chagos. Alors, les Chagos, ce sont des îles qui se trouvent au milieu de l'océan Indien, au sud de l'Inde, et à des centaines de kilomètres à l'est de l'île Maurice. Et Carole nous explique pourquoi elle a choisi d'écrire sur ce sujet.
Tout simplement parce qu'il s'agit d'une histoire qui me touche profondément. Ce qui leur est arrivé, c'est une tragédie qui fait partie de l'ADN de l'île Maurice. Il s'agit d'une lutte pour les droits humains. Il s'agit de personnes qui se battent pour leurs droits. Il s'agit de personnes qui se battent pour rentrer chez eux, tout simplement pour avoir le droit de retrouver leurs îles natales. Et étant moi-même originaire d'une île, donc je n'ose pas imaginer qu'un jour quelqu'un vienne me dire « Ben écoute, non, tu peux pas rentrer sur ton île elle a été fermée ou ton île elle a été vendue, donc non, c'est pas possible, tu rentres pas ». Donc c'est quelque chose que je n'ose pas imaginer.
Voilà, la blogueuse Carole Rico. Les Chagossiens ont été chassés de leur île il y a plus de 50 ans, Thibaut Matta.
Oui, petit rappel historique. Alors entre 1965 et 1973, les Chagossiens ont été expulsés de leur archipel pour laisser la place à une base militaire américaine. Au total, ce sont près de 2500 habitants qui ont été déportés sur des îles situées aux alentours, dont l'île Maurice.
Et du coup, avec cette dispersion de la population et leur arrivée sur de nouvelles îles, les Chagossiens ont dû laisser derrière eux forcément une grande partie de leur culture ?
Alors non, on ne peut pas dire qu'ils aient totalement abandonné leur culture. Au contraire, cette culture, elle continue de se transmettre entre les générations. Et d'ailleurs, dans son article, Carole cite des chansons qui racontent notamment la vie des Chagossiens lorsqu'ils étaient encore présents sur l'île, mais elle parle aussi de chansons qui réclament le retour de ce peuple sur son archipel. C'est le cas de la musique intitulée « Nous îles », elle est interprétée par le chanteur Double K, et il évoque la vie de ses grands-parents qui ont vécu là-bas avant d'être déportés. Cette culture, elle continue donc de se transmettre par la musique.
Donc la chanson fait partie d'un héritage, mais la culture chagossienne sont aussi des recettes de cuisine.
Tout à fait. Hein. Et si vous aimez le lait de coco, vous allez adorer la cuisine chagossienne, parce que c'est l'ingrédient phare de toutes leurs recettes. Carole, elle vous invite même à réaliser un plat typique des Chagos, le seraspoule. Je ne sais pas si vous connaissez, chef Anto.
Du tout. Ah,
et ben, je vais vous donner
si
la recette.
Si vous arrivez à coller Anto, c'est pas mal.
Pour réaliser ce plat, en fait, il suffit de remplir une casserole d'eau. Vous plongez la chair d'un poulet, d'un poisson ou d'un crabe, hein, ça c'est comme vous voulez. Vous laissez mijoter jusqu'à ce que la chair devienne sèche. Vous ajoutez le fameux lait de coco et surtout beaucoup de piment. Vous laissez mijoter encore quelques minutes et vous pouvez déguster, hein, je vous assure, vous verrez, c'est délicieux.
J'entends le bruit de la marmite.
Pour retrouver cette recette et écouter la chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut vraiment aller sur le blog de Carole Rico, c'est Zille Maurice avec un Z et un O. mondoblog.org ou alors directement sur le site de Mondoblog.
zillemaurice.mondoblog.org ou bien sûr Mondoblog. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page de 8 milliards de voisins, évidemment. Et maintenant, Thibaut, on donne la parole à un blogueur de Mondoblog qui nous parle des taxis en Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Avec le blogueur Siakado Ouattara Bamba, il est ivoirien, âgé de 39 ans.
Il a rejoint Mondoblog l'année dernière et il a déjà écrit, tenez-vous bien, plus de 60 articles. En un an, c'est juste énorme.
Ouais, il adore écrire.
C'est ça. Et sur son blog, il écrit sur la hausse du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire, sur la place de l'application WhatsApp dans les familles ivoiriennes, ou encore sur l'érosion côtière qui menace le tourisme dans son pays. Mais parmi tous ces articles, celui que je vous conseille vraiment d'aller lire et que je vous propose d'écouter aujourd'hui concerne une de ses virées en taxi à Daloa, à bord d'une bombe roulante.
En Côte d'Ivoire, les chauffeurs de taxi sont devenus fous du gaz butane. Ils utilisent ce gaz comme combustible pour faire fonctionner leur véhicule. Récemment, j'ai pris un taxi à Daloa. J'étais confortablement installé sur mon siège quand j'ai senti une odeur persistante, vraiment bizarre. J'ai éternué et je me suis écrié « Mais c'est du gaz !» Le chauffeur a acquiescé et s'est excusé. Aujourd'hui, les réservoirs d'essence des taxis et des bus sont souvent remplacés par des bonbons de gaz. L'avantage, c'est que le butane rejette 20% de CO2 en moins que les carburants habituels. Les transporteurs ivoiriens seraient donc tous devenus écolos ? Pas si sûr. En réalité, l'intérêt des chauffeurs de taxi pour le gaz butane est avant tout financier. Il est peu cher et facilement accessible. Cela donne une alternative aux chauffeurs qui font face aux coûts très élevés des hydrocarbures comme l'essence et le gasoil. Grâce au gaz butane, ils font plus de bénéfices. Ce changement de carburant s'est opéré après la flambée du prix du pétrole. Le contexte international a créé une telle hausse des prix à la pompe que les taxis ivoiriens ne pouvaient plus suivre. C'est comme ça que le gaz butane a pris le dessus en Côte d'Ivoire et aussi dans de nombreux pays voisins. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié. Madou, le chauffeur de mon taxi à Daloa, m'a expliqué qu'auparavant, il devait faire le plein d'essence chaque matin pour pouvoir rouler toute la journée. Cela lui coûtait 25 000 francs CFA. Il arrivait à peine à s'en sortir. Mais maintenant, avec deux bonbons de gaz butane qui ne lui coûtent que 5 000 francs, ça va beaucoup mieux. La plupart des taxis installent donc des bonbons de gaz dans leur coffre avec l'aide de garagistes pour quelques milliers de francs CFA. On peut être admiratif de cette ingéniosité, mais il faut tout de même dire l'extrême dangerosité du processus. En vérité, ces taxis sont de véritables engins explosifs. Le butane peut être utilisé sans risque si la température n'excède pas les 50 degrés Celsius. Or, dans nos régions, la température avoisine souvent ce seuil. Depuis plusieurs années, pour protéger les citoyens de tout accident, le gouvernement ivoirien interdit l'utilisation du gaz comme carburant. Mais les forces de sécurité ont visiblement d'autres chats à fouetter. L'État paraît faible et les acteurs de cette activité font croire que les risques sont plus imaginaires que réels. Moi, j'aimerais dire à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire, qu'ils soient bus ou taxi, pour tous vos concitoyens, dites stop au gaz butane et arrêtez de transporter vos passagers avec des explosifs.
Stop au gaz butane. Anto, Eric, je vous ai vu ultra attentif hein,
ah oui, à ce billet. C'est passionnant et j'aime beaucoup sa façon de raconter, en plus, parler d'un sujet sérieux.
Ouais, en deux minutes, tous les enjeux sont compris.
Hein. Ah ouais, ouais. Donc prudence hein, quand vous prenez des taxis pendant les fortes chaleurs. Vous savez à quoi vous attendre. Avant de nous quitter, Thibaut Mata, il y a un article fraîchement publié sur Mondoblog que vous nous conseillez de lire.
Oui, c'est celui de Ashuka. On l'a publié récemment et il s'intitule « Cet homme est dangereux ». Alors, il ne parle pas là d'un grand criminel notoire, mais de la légende camerounaise Samuel Eto'o. Bien qu'il ait de nombreux fans, hein, le président de la Feka Foot s'est attiré les foudres du blogueur Ashuka. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous sur le site de Mondoblog pour lire cette critique acerbe sur le patron du football camerounais.
Ouais, je sens qu'il va se faire démonter. Merci à vous, Thibaut Mata. Mondoblog, c'est ici. Vous retrouvez tous les articles des blogueurs, des blogueuses. Incroyable diversité. Donc, mondoblog.org. Merci à vous, Thibaut. Rendez-vous jeudi prochain avec quelqu'un d'autre de l'équipe de Mondoblog pour nous faire découvrir les nouveaux articles des blogueurs et des blogueuses. blogueuse Mondo Blog chez les voisins. Merci à vous Thibaut.
Merci Emmanuel.
Et puis bravo pour le baptême de l'antenne en direct chez 8 milliards. C'était réussi.
Merci pour l'accueil.
Demain, 8 milliards de voisins, génération boomerang. Ces jeunes adultes qui sont contraints de revenir habiter chez papa-maman. Pour des raisons évidemment économiques. Laurence Garcia vous donne la parole, les voisins et les voisines. Vous pouvez nous appeler, que vous soyez les parents ou les adultes contraints de revenir au bercail. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51. 41 dans quelques instants, RFI midi. Et bien sûr, merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Toutes nos émissions sont à réécouter en podcast à l'heure qui vous convient sur l'appli RFI Pure Radio et retrouvez-nous aussi sur WhatsApp Channel. Il y a un petit sondage qui va vous plaire sur les boissons locales.